à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Classique Café, une émission qui aura aujourd'hui un format particulier puisque j'ai le plaisir de recevoir, excusez du peu, une pianiste, une organiste, un compositeur, un auteur et une chanteuse et tout cela réuni dans une seule et unique personne, Orchia Doriot. Bonjour Orchia Doriot, soyez la bienvenue dans ce Classique Café exceptionnel entièrement consacré à votre immense talent. Orchia Doriot, les auditeurs d'Esprit Occitanie vous connaissent bien puisque vous avez déjà participé à l'émission de Christian Moreto sur notre antenne, mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur vous avant de parler du premier morceau que nous allons écouter dans un instant.
Bonjour et merci de l'accueil, vous avez déjà résumé beaucoup. Que dire pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore ? Eh bien oui, je suis une pianiste, concertiste, compositrice dans une esthétique classique et j'espère vous entraîner dans un voyage avec les morceaux que André a choisis aujourd'hui pour vous. Extrait de l'album, certes, Qui va piano solo et dont je narre la genèse dans Le dessous des notes, un ouvrage consacré à la genèse de mes œuvres. Et voici, je pense que la musique parlera mieux encore que moi.
Eh bien, la musique va parler avec un premier morceau qui s'appelle Zorzeus Concertino. Pourquoi ce titre ? Pourquoi Zorzeus ? Pourquoi Concertino ?
Alors, il est vrai que, puisque je compose dans un style classique, pour le piano, c'est souvent de l'impressionnisme romantique. Pour l'orgue, c'est plutôt des univers baroques et chevaleresques. Mais là, c'est un morceau que je joue parfois à l'orgue, au piano. Et j'y ai mis mes racines vénitiennes, italiennes, baroques, puisque voilà, je suis à moitié de là-bas et que j'ai beaucoup d'affection pour la fin du XVIIe siècle, la musique de Vivaldi. Donc, un concertino, parce qu'il n'a pas l'envergure d'un concerto dans la longueur, et il est écrit en réponse. Alors, je partais pour composer un morceau pour trompette et orgue pour mon ami Jean Zorzin, trompettiste avec qui je jouais de temps à autre. Et comme souvent les œuvres que j'écrivais pour lui le fatiguaient avec des contrerées en permanence, il m'a dit écoute, écris au moins 4 tons plus bas parce que quand même, bon, je ne veux pas dire qu'il commence à se sentir vieillir,
mais en fait
il m'a fait un petit peu cette remarque-là. Je lui ai dit d'accord, je commence à écrire quelque chose en la majeur. Et puis en fait, la tessiture de la trompette me limitait. Et j'ai dit, au diable, j'écris un morceau pour orgue ou piano. Donc voilà, c'est parti sur un petit concerto. Il n'y a plus de trompette, c'est pour piano seul. Et un hommage à Jean quand même, Jean Zorzin. Je l'appelais Zorzeus Concertino.
Ah, parfait. Voilà. Voilà, bon, on écoute Zorzeus Concertino. Baroque. Voici. Thank you. c'était Zorzeus Concertino. Et maintenant, nous allons passer à toute autre chose, une pièce lente qui s'intitule Moulin d'hiver. C'est une pièce qui suscite beaucoup d'émotions. Elle fait penser à une musique de film. L'eau coule, la vie coule. Alors, parlez-nous un peu plus de ce Moulin d'hiver.
Moulin d'hiver, alors elle fait partie de mon répertoire pour piano pur, dit romantique, impressionnisme. Ça a été dû à une rencontre qui m'a fait éprouver beaucoup d'empathie. Dans l'Ariège, dans les Pyrénées perdues, j'ai rencontré un monsieur qui était propriétaire d'un charmant moulin que tout le monde prenait en photo parce qu'il avait aménagé cela un petit peu comme un conte de fées avec des échauguettes, des petits ponts bombés sur l'eau. Et ce monsieur avait une destinée un petit peu particulière. J'ai senti un être très solitaire, qui était assez doué dans plein de domaines, mais qui sabotait systématiquement tous les domaines de sa vie qu'il touchait avec réussite. C'est-à-dire qu'il avait fait des études de contrebasse jusqu'à un premier prix, mais il arrêtait là, des études de médecine. Et toute sa vie, même sentimentale, ressemblait à ça, c'est-à-dire à quelque chose d'inachevé. Voilà. Et son moulin, qui était magnifique, était assis sur des bras de torrent.
Oui.
Et il avait fermé les écluses. Et j'ai eu cette sensation d'une résonance entre le vécu de ce monsieur qui fermait quelque chose à la vie et à l'eau. Et il s'est un petit peu confié en moi, je ne sais pas pour quelle confiance j'ai pu lui inspirer. Il m'a parlé un petit peu de sa vie. Et j'ai senti une destinée que j'ai remarquée aussi chez pas mal de personnes, d'être douées mais qui sont romantiques et qui se sentent inadaptées face à ce monde qui ne les comprend pas. Ils n'ont peut-être pas les clés aussi pour oser passer par-dessus. Et en fait, après m'avoir fait ses confidences, il a ouvert le lendemain les vannes de son moulin et l'eau s'est remise à couler, à faire gronder et vibrer la maison. Alors je ne sais pas si lui a changé quelque chose et s'est mis en mouvement aussi dans sa vie, mais ce morceau, Moulin d'hiver, parce que j'ai découvert ce lieu en hiver, relate cette grande nostalgie, solitude, c'est comme la musique de film, on est dans ce paysage de montagne, voilà. Et puis il est tripartite, dans la deuxième partie, on commence à avoir l'eau qui coule et toutes la déclinaison des gouttes. Et au troisième, le couplet revient parce que la solitude, elle est quand même là. Je crois que le monsieur, il avait une cinquantaine d'années. Je ne sais pas si c'est à 50 ans qu'on peut se reformer. Moi, je pense qu'on peut se reformer à n'importe quel âge. Oui, mais je pense qu'il avait une certaine difficulté. Donc, le quotidien, je l'ai fait revenir avec sa pesanteur. Et à la fin, ça s'ouvre sur des notes, une tonalité majeure, puisque l'essentiel du morceau est en do dièse mineur.
On écoute Moulin d'hiver.
Merci.
Thank you.
Moulin d'hiver. Et maintenant, nous allons passer à Orchia Dorio, organiste. Et j'ai lu dans les documents que vous m'avez transmis que vous avez été, que vous étiez une des plus jeunes organistes du Sud-Ouest. Vous avez commencé l'orgue à 11 ans, c'est ça ?
Oui, j'ai touché l'orgue à 11 ans et j'étais autodidacte. Ça a été une aventure un petit peu particulière, en ce sens que dans la ville où j'habitais, et je suis revenue vivre là depuis peu, jouait à la messe le dimanche un organiste qui était un excellent pianiste de jazz, qui avait fait jouer dans des cabarets à Paris, excellent improvisateur, mais qui en avait assez d'assurer les messes le dimanche et qui rêvait de se retirer dans une cabane dans laquelle il vivait, à moitié nu, dans les bois. Il avait besoin de couper avec toute la vie mondaine. Encore un associat, je crois que j'ai été marquée par ce type de profil que j'ai observé dans mon enfance. Et en fait, il m'avait repérée. C'était un ami un petit peu de la famille qu'on voyait de temps en temps, du côté italien, évidemment. Il me repère, j'avais 11 ans, il me dit « Tu veux pas venir jouer de l'orgue ?» Viens voir à l'orgue. Et donc, je monte à l'orgue, il me montre l'instrument, il me montre les partitions, me montre vaguement quelques accords. Il me dit, mais écoute, la semaine prochaine, tu joueras le Notre Père à la messe. Et il me confie la partition. Donc, la semaine prochaine, je monte à l'orgue, j'avais préparé mon petit Notre Père, les accompagnements. Ça m'amusait, j'avais repéré les jeux, les registres, les pédales, ça me paraissait inné. Et au moment du Notre Père, il oublie de me laisser jouer. Il me dit, ça sera pour la semaine prochaine. La semaine suivante, je monte à l'orgue, je trouve l'orgue allumé, les lumières, et en fait, il n'était pas là, il était parti. Oui. Voilà. Et il m'a confié les clés. Et du jour au lendemain, immédiatement, j'ai un rapport très intuitif, très instinctif, beaucoup plus évident qu'avec le piano, même si je préfère le piano, en fait. Oui. Et j'ai accompagné les messes, j'ai utilisé les registres, compris tout de suite cette grande mécanique, comme si j'en avais fait avant, en fait. C'est assez étrange, parce que j'ai passé mon temps à m'amuser à l'orgue. Donc, de 11 ans à 17 ans, j'ai fait toutes les messes, et puis j'ai joué pour des mariages. Voilà. Et, j'ai laissé cet instrument de côté pour me consacrer au piano, qui est mon instrument maître, et j'y suis revenue il y a quelques années à la demande du public qui me réclame avec mes créations à l'orgue.
Justement, nous allons écouter Toccata
Omega,
qui sera sur votre prochain
album qui va sortir très bientôt.
Alors, parlez-nous de cette pièce.
Alors, elle est récente en création. Autant Zorzeus et Moulin d'hiver dataient de 2011, et là c'est juillet 2018. Mmh. Je crois que j'ai voulu écrire une pièce grandiose dans un esprit à la fois, je dis pas de musique de film, mais chevaleresque, presque mystique. Pour moi, ce sont les anges justiciers qui interviennent, voilà, et qui remettent tout d'équerre. Oméga, voilà, alpha oméga, c'est tout peut être détruit, il reste l'esprit. Voilà. Je suis pas particulièrement ni religieuse ni mystique, mais j'avais envie de rendre hommage à ces qualités-là qu'on peut voir aussi dans des films.
Et ça a été enregistré à Nîmes.
Sur l'orgue de Kern de la cathédrale, qui est un magnifique instrument de quatre claviers.
Le rendu est très beau, en effet.
Oui, j'ai été, et je remercie Michel Reinhardt, aussi l'organiste de Nîmes, qui était là, l'assistance au registre, et ça a bien aidé pour mettre en valeur les sonorités.
Eh bien, on va écouter Toccata Omega.
Merci.
Thank you.
Voilà, Toccata Omega, une très belle pièce. Alors maintenant, nous allons écouter autre chose, tout à fait autre chose, Espoir. Alors parlez-nous d'Espoir.
Alors ça, c'est une vieille œuvre de prime jeunesse, je pourrais dire, puisqu'elle a été composée en 96.
Ah oui.
Dans la fulgurance de 13 jours de folie, c'était entre le 13 et 27 avril 96.
C'est précis, ça.
Oui, c'est précis, et ça, je me le rappellerai, je crois, jusqu'à la fin, parce que, voilà, dans la fougue presque encore adolescente, j'avais demandé à des copains de mettre des affiches dans tout Toulouse et de dire, voilà... Enfin, on a mis les affiches le 13 avril. Concert de création pour le 27 avril et je n'avais rien fait, hormis un morceau et le concerto classique. Donc, je me suis enfermée pendant 14 jours où j'ai créé, dû consigner, même de manière parfois très ramasser les notes. Et ça a été mon premier récital de création qui s'appelait Fait à l'époque. Puis, ça a été réédité cette année, un album, je l'ai rebaptisé 1996 Éclosion, parce qu'il y a eu du chemin parcouru. Et dans cet album, il y a des œuvres de style donc baroque, impressionniste, romantique, espagnol, chevaleresque, mystique. Et il y a une suite qui s'appelle Attente, et qui est la déclinaison de l'attente amoureuse en trois pièces. Attente, évidemment, Espoir, et puis Allélu. Alors, Allélu est un morceau qui m'est régulièrement, systématiquement demandé. Et je suis contente que vous ayez choisi la pièce Espoir, parce que elle apparaît dans l'album Qui va piano solo, je l'ai reprise. Elle est assez courte, et elle est l'ouverture voilà, sur un romantisme.
On
écrit en 96,
Espoir.
Voilà.
On écoute Espoir. Alors, après Espoir, voici le registre, si je peux dire, valse. Et d'abord, une valse qui s'appelle Valse Romantica. Et moi, j'aime beaucoup le rythme de la valse, et particulièrement cette Valse Romantica. Elle me plaît. Alors, parlez-moi de cette valse, puisqu'elle me plaît.
Alors, elle a été créée en 2011. Elle est dans l'album Qui va piano solo, parce que c'est deux albums séparés, le piano, il y a le tout premier, puis le récent, qui est vraiment une griffe impressionniste, romantique. Et j'ai voulu rendre hommage au grand romantisme, à la Chopin, à la Liszt.
Oui,
voilà,
c'est
dans cette...
Elle est très classique et très...
Classique, il y a des moments de virtuosité. Elle tripartite toujours, il y a beaucoup de pièces tripartites dans cet album-là. Donc on commence avec le grand romantisme, il y a le déchaînement, une partie médiane plus solaire, et puis on revient à cette révolte, et puis ce grand idéal, parfois bouleversé.
Bien, on va laisser les auditeurs juger.
Oui.
Voici Valse Romantica. Thank you. Valse Romantica. Et on va continuer toujours dans le registre des valses avec une autre valse, pour terminer cette émission, Valse au pays des flonflons. Alors là, vous m'aviez parlé d'un voisin qui était facteur d'orgue de barbarie, c'est bien ça?
C'est à peu près ça. Oui, à peu C'est-à-dire près. Que j'ai vécu dans un tout petit village où il n'y avait pas un seul commerce, perché sur une colline, et que les voisins que j'avais dans la maison d'à côté étaient très discrets. Je les croisais vaguement. Je sais qu'ils appréciaient énormément d'entendre les sons du piano à travers les cloisons et les murs, mais ils ne m'en disaient pas davantage. Et ce n'est que quand j'ai déménagé qu'ils m'ont invité, en tant qu'ancienne connaissance, un soir, et j'ai découvert avec stupéfaction que ce voisin, qui avait un magasin d'ailleurs de jouets à Toulouse, pas très loin d'ici, ouais. Jouets en bois, avait confectionné à lui tout seul, sous la guidance quand même de Frédéric Keller, qui était, il est décédé maintenant, un des derniers maîtres de facteur d'orgue de barbarie. Il avait confectionné un orgue de barbarie. Il y avait passé 500 heures de travail dessus, puis 500 heures supplémentaires pour, avec l'entraînement de la mécanique, faire évoluer toute une petite cohorte de personnages en bois, des maisons avec des colombages. C'était en fait un manège enchanté en fait, de personnages. Et j'ai été stupéfaite. Les sonorités étaient magnifiques. J'avais devant moi un joyau. Il avait été très discret sur cette activité alors qu'il me savait musicienne à côté. Et j'ai eu envie... parce que c'est un personnage, ce monsieur, je dis c'est un personnage qui est en fait très discret, mais avec une générosité extraordinaire, qui s'occupe en fait des restos du cœur, de plein de choses humanitaires, mais qui ne dit rien, en fait, voilà. Et j'ai eu envie de rendre hommage à son univers, puisqu'il venait jouer aussi dans les rues de Toulouse, en créant cette valse au pays des flonflons, espérant qu'un jour elle puisse se finir dans les cartons d'un orgue de barbarie.
Ça pourrait, oui.
Malheureusement, Frédéric Keller n'est plus de ce monde, et je crois que c'eût été la seule personne qui aurait pu faire charnière pour que... Voilà. Alors maintenant, elle est jouée au piano en concert, et depuis peu, je la joue à l'orgue, et je la réserve en bis, ça c'est la surprise de mon concert à Moutier-au-Perche à la fin du mois.
On va en parler, voilà. Oui, c'est vrai, ça fait penser, c'est la fête au village,
Les orgues de barbarie avec la nostalgie. Oui,
c'est très beau, c'est très beau.
Merci.
Et à l'occasion de ce concert donc à Moutier et au Perche, il y aura une petite surprise. Je crois que vous allez interpréter des musiques, une transcription sur les musiques de Ramin Djawadi, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est la musique de Games of Thrones. Et vous avez écrit des transcriptions que vous allez interpréter, mais ça, il ne faut pas le dire, parce que c'était une surprise. Enfin, bon, on est loin de Monty au Perche aussi.
C'est une surprise. C'est une surprise parce que je joue quand même sur un instrument tout petit, un clavier pédalier 9 registres du fin 16e, début 17e. Et j'ai décidé, après un peu de Mendel, de Bach et surtout mes œuvres, d'inclure des transcriptions que j'ai réalisées moi-même, des musiques célèbres de Games of Thrones. Et j'espère qu'un public jeune va oser s'approcher de l'orgue et j'espère leur montrer que c'est moderne. Donc il y aura The Light of Seven, The Reigns of Castamere, évidemment le générique.
Et Ramin Djawadi sera ravi.
Certainement, j'espère, surtout le public.
Voilà, bon, bien. Bien, écoutez, avant d'écouter Valse au pays des flonflons, je voudrais rappeler que vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver, www.orchiadorio.com. Là, on peut vous retrouver et on verra tous les auditeurs qui pourront trouver toute votre... découvrir ou redécouvrir votre immense talent.
Écouter la musique, se procurer les disques aussi. On va faire un peu de promo. Et les livres, il y a le dessous des notes qui vient de sortir.
Oui, parce que vous êtes également auteur. Oui, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et je rappelle aussi, je le dis, puisque vous venez de me l'annoncer, vous donnez un concert d'orgue, le 30 mai prochain, c'est pas tout près, c'est dans le Perche, à Moutier au Perche. Enfin, si parfois on nous écoute en région parisienne, on peut se rendre,
Oui, parce que j'espère que le podcast pourra être diffusé entre-temps, que je pourrai le récupérer. J'ai plein de fans qui m'écoutent et me suivent un petit peu partout en France, et je sais qu'ils se réjouiront de savoir que je viens. Et
dans le 30 mai, à Moutier au Perche. Orchiadorio, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
On a passé un petit moment bien agréable. Merci à Hugo. Jamais on en parle, mais c'est vrai, il est toujours là derrière les manettes. Et puis, il nous fait ça de façon artistique et parfaite. Voilà. Et je dis à tout le monde, à bientôt. Au revoir.